tout de suite. Il est 19h pile sur France Inter. Pierre Veil, bonsoir à vous.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, en Israël, le procureur général veut inculper Benjamin Netanyahou pour corruption. Peut-être un tournant dans la campagne électorale, 40 jours avant les élections législatives. Donald Trump en difficulté, témoignage accablant de son ex-avocat. Échec de son sommet avec Kim Jong-un sur le démantèlement nucléaire. Nous irons à New York. En Algérie, des journalistes arrêtés puis libérés au bout de quelques heures lors d'un rassemblement contre la censure. Information France Inter, le parquet national financier veut un procès sur les achats de votes à Corbeil-Essonne lorsque cette localité était le fief de Serge Dassault. Détail avec Sarah Guibaudot. Les grèves du printemps 2018 ont fait fondre les bénéfices de la SNCF. La Cour européenne des droits de l'homme condamne la France pour son traitement d'un mineur isolé à Calais, un jeune Afghan. En visite au salon de l'agriculture, Marine Le Pen affirme qu'on diminue la politique agricole commune pour financer l'accueil des migrants. Nous avons vérifié cette affirmation. L'Académie française valide la féminisation des noms de métiers. En Allemagne, le succès du dernier livre de Michel Houellebecq, Sérotonine. Et puis, après ce journal, Fabienne Sintès, en direct de Budapest, à l'occasion des élections européennes de mai prochain. Gros plan, Fabienne, sur nos voisins d'Europe centrale.
Absolument, toujours depuis le café Golia de Budapest, spécial 18-20 en Europe centrale. Vous avez dit, on s'est beaucoup concentré sur la Hongrie en première heure. On va voyager un petit peu vers la Pologne, vers la Roumanie, vers l'Autriche aussi en suivant le Danube. Toujours avec des reportages, des invités pour comprendre, sortir aussi des clichés. À tout à l'heure, Pierre.
France Inter. En Israël, on est en pleine campagne électorale. Les élections législatives auront lieu dans 40 jours. Benjamin Netanyahou, après bientôt 13 ans de pouvoir, brigue un cinquième mandat. Mais son long règne est peut-être menacé. Le procureur général israélien a annoncé son intention d'inculper Benjamin Netanyahou pour corruption. Étienne Monin, bonsoir.
Bonsoir.
Étienne, vous êtes notre correspondant permanent à Jérusalem. Le procureur veut que Benjamin Netanyahou vienne s'expliquer devant lui.
Oui, il a lancé les poursuites judiciaires. C'est le premier acte. Le Premier ministre peut encore tenter d'éviter la mise en examen. La procédure prévoit une audience en défense, mais elle devrait avoir lieu d'ici quelques mois. L'effet des affaires s'installe donc dans la campagne. On peut même dire que c'est le véritable coup d'envoi de cette campagne. Le Premier ministre est visé par 3 affaires. Dans la première, il est soupçonné d'avoir reçu des cadeaux de luxe. Dans la deuxième, il est accusé d'avoir essayé de s'arranger avec un grand patron de presse pour polir son image. Et dans la troisième, il risque des poursuites pour corruption, soupçonné d'avoir utilisé sa position pour favoriser un ami patron d'un grand groupe de communication. L'effet pourrait être désastreux. Le Premier ministre était déjà talonné dans les sondages par la formation d'une nouvelle coalition. Les affaires pourraient pousser ses électeurs à vouloir lâcher un homme qui a totalement envahi l'espace politique en Israël ces dernières années. Mais le Premier ministre n'est pas tenu de démissionner tant qu'il n'est pas condamné. Les premiers partenaires de sa coalition ont déjà apporté leur soutien et la stratégie de victimisation contre les élites de gauche qu'il utilise depuis des mois pourrait cristalliser l'électorat de droite qui avait manifesté son soutien il y a un an quand la police s'était prononcée pour ses poursuites.
Étienne Monin, en direct à Jérusalem. Une vingtaine de journalistes ont été arrêtés puis remis en liberté au bout de quelques heures à Alger. C'était lors d'une manifestation pour une presse libre pour dénoncer les pressions subies par les journalistes en Algérie, les restrictions dans la couverture des mouvements de contestation dans le pays contre la candidature à un cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Faisal Metaoui, journaliste du média TSA, tout sur l'Algérie, a suivi cette manifestation. Son témoignage recueilli par Céline Asselot.
Dès le début, l'endroit a été quadrillé par les forces anti-CME qui sont venues au nombre. Ils ont empêché nos confrères, ceux qui sont arrivés en premier, d'arriver vers cette placette. Mais une demi-heure après, il y a eu des centaines ou 200 journalistes qui sont venus. Il y a des journalistes, des photographes, des caméramans et qui ont occupé l'espace pendant plus de 2 heures. À chaque fois, la police a tenté de disperser les manifestants. C'est vrai qu'ils n'ont pas utilisé la manière forte, pas de matraque ni de gaz lacrymogène, mais ils n'ont pas laissé les journalistes se rassembler. Malgré cela, les journalistes ont montré des pancartes, ils ont crié, ils ont dénoncé la censure, ils ont dit que le peuple veut une presse libre. Et on a remarqué aussi la forte présence des journalistes de la télévision et de la radio publique qui ont déjà organisé des sit-ins cette semaine.
Donald Trump et Kim Jong-un se sont donc séparés ce matin sur un échec à Hanoï, au Vietnam, après un sommet consacré à l'épineux dossier de la dénucléarisation de la Corée du Nord. Selon le président américain, les discussions ont achoppé sur la question des sanctions économiques infligées à la dictature communiste du fait de ses programmes nucléaires et balistiques interdits. Les Coréens du Nord voulaient que les sanctions soient levées complètement. Donald Trump a dit « pas possible ». Un échec diplomatique au Vietnam pour le chef de la Maison-Blanche et au même moment à Washington, la déposition devant le Congrès de son ex-avocat Michael Cohen, qu'il a insulté en direct à la télévision. Les revers s'accumulent pour Donald Trump à New York. Loïc Loury.
Donald Trump avait quitté Washington avec une victoire en poche, celle de ses négociations commerciales avec la Chine. Il revient aujourd'hui les mains vides. Le président, pourtant, avait promis une décision sage de son ami Kim Jong-un. Il ne fait finalement pas mieux que ses prédécesseurs. Son image de négociateur toujours victorieux en prend un coup, et pire, selon certains, il se sera mis, lui, le leader de la première puissance mondiale au niveau d'un dictateur. Résultat bien maigre pour celui qui rêvait d'un prix Nobel. Avec cet échec international, Donald Trump surtout manque de détourner l'attention de ce qui se passe à Washington, et ce retour au réel sera d'abord un retour aux affaires. L'audition exceptionnelle de son ex-avocat Michael Cohen agite le Capitole, et si son témoignage manque de preuves, il remet au centre de l'attention la pléiade d'affaires que traîne Donald Trump depuis 2 ans. New York, Loïc Loury, France Inter.
Le président sénégalais Macky Sall a remporté l'élection présidentielle de dimanche dernier avec 58% des suffrages. Macky Sall, 57 ans, était considéré comme favori du scrutin en raison de la croissance économique qui a accompagné son premier mandat. Et puis la confirmation d'une information que France Inter vous avait donnée, la mort de Fabien Klein, ce djihadiste porte-parole de Daesh. La coalition internationale menée par les États-Unis qui lutte contre Daesh a confirmé cet après-midi que Fabien Klein est mort dans le nord-est de la Syrie. Il existait bien, il y a 10 ans, un système d'achat de vote à Corbeil-Essonne, le fief de Serge Dassault, et cela doit être jugé en correctionnel. C'est une information France Inter. Sarah Guibaudot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez pu lire les réquisitions du parquet national financier. Pour se faire élire lors des municipales, Serge Dassault faisait des dons, c'est du financement illégal de campagne électorale. Serge Dassault est mort en mai l'année dernière, mais le parquet financier, Sarah Guibaudot, veut faire juger 8 personnes. Dont le maire actuel de Corbeil-Essonnes, Jean-Pierre Bechter.
Oui, loin de la philanthropie revendiquée par Serge Dassault, le parquet national financier estime que ces dons d'argent avaient bien un caractère politique. D'ailleurs, souligne le PNF, sa générosité ne concernait que des habitants de Corbeil et non pas tous les nécessiteux de France. Le réquisitoire rappelle les différentes méthodes utilisées, comme ces faux prêts, parfois des centaines de milliers d'euros, chez le notaire de l'avionneur. Officiellement, il s'agit d'aider des personnes à créer des entreprises. L'argent est en fait dépensé dans des boutiques de luxe, en voyage ou au casino. Des citoyens et anciens élus de Corbeil se sont portés partie civile. Pour l'un de leurs avocats, Joseph Bréham, le procès arrivera un peu tard.
Enfin, un réquisitoire, et un réquisitoire qui renvoie toutes les personnes vivantes devant la justice, donc ça, on ne peut que s'en féliciter. Mais pour autant, que de temps perdu, 10 ans après les premières infractions. Bien évidemment, les citoyens que je représente ont un peu le sentiment d'être la dernière roue du carrosse dans cette affaire.
Si les juges d'instruction suivent ces réquisitions, le maire Jean-Pierre Bechter serait jugé pour financement illicite de campagne. En 2009, ce sont 6,5 millions d'euros qui ont été dépensés. En 2010, plus de 10 millions. L'envoi de sommes plus importantes et la multiplication des intermédiaires ont favorisé les convoitises et la trahison, observe le PNF, d'où la multiplication des violences à Corbeil. Le mois dernier encore, l'un des agents électoraux qui avait dénoncé le système Dassault a été retrouvé pendu au Tarteret.
Sarah Guibaudot, les réquisitions du parquet national financier sur ce système d'achat de vote à Corbeil-Essonne au temps de Serge Dassault, c'est à lire sur franceinter.fr. La France condamnée pour traitement dégradant envers un enfant de 12 ans. C'est la sanction sévère rendue ce matin par la Cour européenne des droits de l'homme. L'enfant s'appelle Jamil. Cet Afghan avait 12 ans en 2016. Il vivait dans le bidonville, la jungle de Calais. Malgré une décision de justice, il n'a pas été pris en charge par l'aide à l'enfance. Pas de foyer ni de famille d'accueil, alors même que l'État décidait d'évacuer ce campement sauvage. 3 ans plus tard, la France est condamnée à lui verser 15 000 euros pour son préjudice. C'est une association de Calais qui l'a accompagné dans cette démarche. Jamil a aujourd'hui 15 ans. Il a réussi à passer en Angleterre où il a été pris en charge par les services sociaux. Écoutez son avocat Lionel Cruzoé au téléphone de Corinne Audouin.
C'est un mineur qui venait d'Afghanistan, qui est arrivé à la fin de l'année 2015. qui était tout jeune à l'époque, hein, puisqu'il avait 11 ans, le juge des enfants, a pris une décision de placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du Pas-de-Calais. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que aucune démarche n'a été effectuée par les services du département du Pas-de-Calais pour exécuter cette décision de placement. Ce jeune mineur est resté sur le bidonville, alors même qu'il y avait une opération d'expulsion qui était à l'œuvre. Il y avait énormément de violence, des jets de gaz lacrymogènes, des abris de fortune qui étaient détruits. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il ne s'est rien passé. Et par la suite, il a gagné la Grande-Bretagne, donc quelques jours après. Il me semble qu'il y a là, avec cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, un message important. On a bon espoir de notre côté que les pouvoirs publics dégageront à l'avenir des solutions de mise à l'abri, notamment sur Calais même, pour un certain nombre de mineurs qui vivent à la rue dans une situation d'extrême dénuement et qui souffrent de cet isolement à Calais aujourd'hui.
On estime qu'une centaine de mineurs vivent encore aujourd'hui dans le secteur de Calais. Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, en visite au salon de l'agriculture. Elle a accusé Emmanuel Macron, je cite, de multiplier les mensonges et les promesses qu'il ne tient pas en matière d'agriculture. Et elle a défendu un patriotisme agricole. Visite suivie aujourd'hui pour nous, Porte de Versailles, par Maxence Lambrecq.
Elle souffle sans cesse le chaud et le froid au pavillon Outre-mer où elle a passé plus de 4 heures. Marine Le Pen se met à danser quelques pas de zouk avec un producteur de rhum guadeloupéen, un chapeau rose sur la tête, le sourire jusqu'aux oreilles, avant de boire un petit punch sans complexe.
C'est de l'alcool, hein. C'est-à-dire c'est pas fort, ça dépend de quel point de vue on se passe. Et bon, merci ma belle, merci. Celui-là, les enfants, c'est de l'élixir.
Et Marine Le Pen enchaîne les selfies, les câlins avec les enfants. C'est sa manière de faire campagne. Personne ne vient l'interpeller. Elle retrouve son costume d'opposante et sa radicalité face à la presse et contre l'Union européenne.
Emmanuel Macron ne peut pas dire « je suis un patriote de l'agriculture ». Et parallèlement, on nous dit « on va baisser la PAC ». Et pourquoi on va baisser la PAC ? Pour pouvoir libérer de l'argent et notamment pour accueillir les migrants. Non mais je veux dire, il y a un moment donné, il faut arrêter la folie. Donc moi je suis désolée, mais je considère que l'argent des Français doit aller plutôt aux paysans qu'aux migrants. Il me reprochera ce résumé, mais pourtant ce résumé c'est une réalité.
Comme toujours, une phrase choc pour marquer les esprits. Marine Le Pen garde les techniques de son père, avec le déhanché en plus et l'agressivité en moins. Ici et aujourd'hui, ça a l'air de fonctionner.
Voilà, reportage Maxence Lambrecq. On diminue la politique agricole commune pour libérer de l'argent et pouvoir accueillir les migrants. C'est ce qu'a dit Marine Le Pen. Que penser de cette affirmation, vraie ou faux ? Réponse de Pierre Benazet, notre correspondant à Bruxelles.
Entre 2015 et 2017, 7 milliards d'euros au total ont été mis à disposition par l'UE en faveur des États qui ont accepté la répartition volontaire des migrants. Ceci est tiré de lignes budgétaires spécifiques prévues pour les situations exceptionnelles. C'est à comparer avec les 56 milliards annuels de la politique agricole commune, dont les budgets vont en diminuant depuis les réformes entamées au début de la décennie, puisque de plus de la moitié, à l'origine de la CEE, le budget de la PAC est actuellement de 40% environ. La contribution française au budget européen est estimée pour 2019 à 23,2 milliards d'euros, deuxième année consécutive d'augmentation. Après l'Allemagne et le Royaume-Uni, la France est le troisième contributeur net. C'est comme cela qu'on appelle les pays qui donnent plus que ce qu'ils reçoivent en retour. Les deux tiers des fonds reçus en France de l'UE concernaient la politique agricole commune. Pierre Benazet, France Inter. À Bruxelles.
À la veille de son débat avec des élus à Bordeaux, Emmanuel Macron a effectué en fin d'après-midi une visite surprise dans un centre d'insertion professionnelle à Codéran, un quartier résidentiel bordelais. La SNCF publie ses résultats financiers pour 2018, un bénéfice net de 141 millions d'euros, mais en 2017, c'était beaucoup plus, 1,5 milliard d'euros. Évidemment, Fabien Cazot, les grèves par épisode contre la réforme ferroviaire d'avril à juin 2018 ont plombé les comptes du groupe.
890 millions d'euros, c'est ce qu'auront coûté à la SNCF les grèves du printemps dernier. De quoi faire fondre le bénéfice net que l'entreprise a dégagé en 2018. Bénéfice net divisé par 10 par rapport à l'année précédente. La SNCF se félicite néanmoins d'avoir pu rester dans le vert. Malgré tout, les TGV tirent une nouvelle fois vers le haut les performances du groupe, alors que l'activité fret pour les marchandises marque quant à elle un net repli, là aussi conséquence directe des grèves du printemps. Pendant toute cette période, la SNCF a continué ses investissements pour l'entretien du réseau. 835 km de voies ferrées remises à neuf, 3515 km de caténaires vérifiés ou remplacés, ce qui n'empêche toujours pas les pannes et les retards, comme il y a encore 10 jours dans la vallée du Rhône. Comme en réponse aux grèves du printemps, la SNCF insiste enfin sur le volet social dans la présentation de ses résultats, indiquant qu'un intéressement sera versé aux salariés, en plus d'une prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat déjà versée en décembre dernier.
Fabien Cazot, en raison d'un épisode de pollution aux particules fines, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de reconduire la circulation différenciée à Lyon. Demain, seuls les véhicules dotés d'une vignette Crit'Air seront autorisés à circuler à Lyon et à Villeurbanne. Les cigarettes plus chères dès demain en raison de la hausse de la fiscalité décidée par le gouvernement pour réduire la consommation de tabac, une augmentation de 50 à 60 centimes. Elle est la gardienne sourcieuse du bon usage de la langue française. L'Académie française examinait cet après-midi un rapport qui préconise la féminisation des noms de métiers, un sujet longtemps tabou au sein de cette vénérable institution, un rapport d'une vingtaine de pages, adopté finalement à une large majorité. L'Académie ne voit aucun obstacle de principe à la féminisation des noms de métiers et de professions. C'est une évolution naturelle de la langue, dit le texte adopté par les immortels sur cette décision. Réaction prudente de l'académicien Michel Zinc, interrogé par Ilana Morioussef.
C'est un rapport qui est une constatation très mesurée et très prudente des usages actuels. Il y a une tendance profonde actuellement pour la féminisation des noms de métiers, de fonctions, etc. On ne peut pas faire autrement que d'en tenir compte. Ce qu'on ne peut pas savoir, c'est ce que sera l'évolution de cette tendance. Et on ne sait pas si, dans l'avenir, eh bien, on continuera à aller dans le sens de la féminisation des noms, si, dans le souci d'une sorte d'égalisation absolue des sexes et le souci de ne pas demander à chacun quel est son sexe et ce qu'il fait de son sexe, on ira plutôt vers une sorte de neutre, ou si il faudra encore évoluer en tenant compte d'un troisième sexe, comme font les Allemands, ou comme ça. On est dans une situation instable, et c'est pourquoi l'Académie a eu raison, je crois, d'avoir un rapport prudent.
Michel Zinc de l'Académie française. C'est une des plus grosses ventes en librairie depuis plusieurs semaines en France. Sérotonine de Michel Houellebecq. Il bat aussi des records de ventes en Allemagne 6 semaines après sa sortie. Là-bas, on aime le réalisme cru de Houellebecq, son étude de nos sociétés. À Berlin, récit de notre correspondant Ludovic Piétonu.
Numéro 1 des ventes le premier mois, en 4e place 6 semaines après sa sortie dans le classement que publie l'hebdomadaire Der Spiegel. Sérotonine s'est déjà écoulée à plus de 120 000 exemplaires, selon sa maison d'édition allemande Dumont. Jacqueline Mazouk est une fan, elle partage ses plaisirs littéraires sur son compte Instagram. Elle est aussi libraire chez Dussmann, au centre de Berlin.
Ce livre est si incroyablement triste, beau et profond que je le recommande comme première lecture de Houellebecq. Lisez Sérotonine.
Ce que cette lectrice allemande aime, c'est ce récit moderne.
Il ne dit pas que tout est beau, que tout va bien, mais il parle de la réalité. Une réalité qui est assez terrible. Nous avons peur quand nous sortons dans la rue. Nous avons peur quand on regarde l'avenir. Il décrit cela.
Ce que confirme Patrick Suell, fondateur il y a déjà plus de 15 ans de la librairie Zadig, librairie francophone à Berlin.
S'il a autant de succès en Allemagne, c'est parce qu'il exerce une critique de nos modes de vie, simplement. Il ne faut pas oublier que le héros type de Houellebecq, il a une grosse voiture puissante, il part dans le sud de l'Espagne en vacances, il a des moqueries à l'égard des Allemands en short avec un appareil photo.
Ce sont bien ces auteurs du réel, ces Français qui plaisent aux Allemands, aux côtés de Michel Houellebecq, parmi les meilleures ventes, Annie Ernaux, Virginie Despentes, Didier Ribon ou le jeune Édouard Louis. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
Houellebecq, superstar littéraire en France et en Allemagne. Les couleurs du ciel.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, pruneau rouge, de toutes les couleurs. Fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonsoir Sébastien Léas.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Les averses se décalent vers l'est.
Oui, et les averses qui arrosent actuellement le nord, les Ardennes, l'Aisne et le bassin parisien vont glisser vers l'est ce soir et cette nuit. Elles seront encore assez actives jusqu'à demain matin, puis traîneront encore sur l'Alsace, la Franche-Comté et les Savoies l'après-midi. Sur le Jura, les Vosges et les Alpes du Nord, la limite pluie neige va s'abaisser vers 1200 mètres d'altitude. À l'arrière de ces averses, les nuages resteront imposants, mais des éclaircies vont revenir par l'ouest dès demain matin. Ces éclaircies vont vont progressivement s'élargir et on profitera d'un après-midi bien lumineux, des plaines du sud-ouest à l'Auvergne jusqu'aux côtes normandes en passant par l'Île-de-France. Sur le pourtour méditerranéen et les Pyrénées, le soleil va briller toute la journée. En revanche, en Bretagne, les nuages vont à nouveau envahir le ciel demain après-midi. Ce sont les prémices d'une nouvelle perturbation qui nous concernera samedi. Après presque une semaine où on a battu record sur record, encore aujourd'hui sur les régions méditerranéennes, l'arrivée d'air plus frais venant de l'océan va atténuer cette douceur. Les maximales de demain resteront tout de même au-dessus des valeurs de saison, affichant 9 à 20 degrés du nord au sud, avec 12 degrés pour Paris, Limoges et Strasbourg, 13 degrés à Lyon et 15 degrés à Toulouse.
Merci Sébastien.